Vous écoutez RTL, première radio de France.
Ça peut être de très très belles histoires, les urgences. Tout n'est pas dramatique chez nous, heureusement.
Vous voyez des choses très dures, des accidentés, vous assistez à la mort de gens.
La curiosité est un vilain défaut.
Les urgences, c'est quand même très très spécial, avec une dose de stress et d'agitation plus importante qu'ailleurs.
Et finalement, c'est une discipline aussi qui est remplie d'émotions.
RTL.
Ouais, le métier qu'ils font, jamais je pourrais le faire.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quel est le quotidien d'un médecin urgentiste? C'est vrai qu'on est plein d'admiration. Moi non plus, je ne pourrais pas faire votre métier, Mathieu Ducamp. Et c'est pour ça que c'est bien que vous veniez nous en parler au micro de la curiosité. Tiens, on va planter le décor et l'ambiance des urgences. On va commencer avec quelques drôles de rencontres. Par exemple, cet homme qui arrive, il n'avait plus de cigarette, alors il a eu l'idée de fumer autre chose.
Ah ouais, c'était... ça correspond bien avec le sujet d'avant.
C'est une transition.
Ouais, c'est bien fait. Parce que le... Donc, déjà, c'était un gars un peu particulier parce qu'il est arrivé à l'accueil des urgences habillé en une espèce de Michael Jackson version, version bad. Donc voilà, le mec était déjà bien barré.
Il avait beaucoup de cuir sur lui, c'est ça?
Ouais, déjà beaucoup de cuir, d'accord. Beaucoup de... Enfin, tu vois, les trucs un peu années 80, machin. Enfin, je viens des années 80, donc voilà. Mais... Et donc, on le fait rentrer, il nous dit « Ouais, j'ai un truc au bout de la bite, là, ça va pas. » Enfin, je dis, il me dit comme ça. Donc, je dis « Ouais, bon, bah, rentrez, donc on va le voir. » Et puis, donc j'examine et je lui dis « Mais en fait, ce que vous avez, là, c'est une trace de brûlure, quoi. C'est pas un truc dermatologique, enfin, c'est pas un truc infectieux. » Il me dit « Ouais, parce qu'en fait, j'avais plus de cigarette, alors j'ai essayé de me fumer la bite, mais en fait, c'est pas possible. »
Mais c'est pas possible, c'est complètement... On pourrait croire que vous l'inventez, c'est pas possible.
Non, mais c'est... Enfin,
oui, c'est pas possible d'inventer ça, oui.
Non.
À propos de brûlure, il y a un autre couple...
On a du mal à enchaîner, ouais, quand même.
Qui s'est brûlé en faisant un barbecue dans un drôle d'endroit.
Ah, ils sont pas brûlés. En fait, ça me faisait rire de le raconter parce que je trouvais que c'était bien de le raconter en version, enfin, comme une recette de cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est une spécialité du Nord. Je ne connais pas encore toutes les spécialités du Nord parce que je ne suis pas du Nord, mais ils ont essayé de faire un barbecue l'hiver dans la maison. Donc,
Alors, c'est pas une spécialité du Nord. Hein. Ben, moi, j'y ai vécu 2 ans. Je peux vous assurer que c'est pas une spécialité du Nord.
Ouais, du coup. J'ai eu le même cas. Ça, c'est un truc il y a 4 ans et c'est un truc que j'ai eu il y a 3 semaines. Donc, je me dis peut-être bon.
Et deux fois la même chose, c'est ça?
Ouais.
Et qu'est-ce qui leur arrive avec leur barbecue à l'intérieur?
On est appelé pour malaise. Ils se sont tous intoxiqués au monoxyde. Ils ont tous fini au caisson à Lille.
C'est quoi finir au caisson?
C'est quand vous avez une certaine dose d'imprégnation. Alors, c'est pas la dose, mais c'est quand vous avez certains signes cliniques d'imprégnation au monoxyde. Le traitement, c'est d'aller dans un caisson où on augmente.
Comme Michael Jackson.
C'est un peu ça. En plus cher. Enfin, je sais pas. Et du coup, en fait, c'est le traitement. C'est-à-dire qu'on vous fait des séances en jouant sur la pression pour chasser plus rapidement le monoxyde. Parce que l'effet du monoxyde, c'est que. Si on soigne pas les gens, alors soit il y a vraiment l'asphyxie, machin, mais si c'est vraiment que de l'imprégnation, il y a un syndrome qui peut apparaître des jours, des semaines après, et en fait ça vous rend complètement neuneux. Donc voilà, en l'occurrence, ça aurait rien fait de particulier, mais parce qu'il s'était déjà neuneux, mais voilà, donc en gros, ces gens-là ont fini à Lille pour une bête histoire de 3 merguez en hiver.
Est-ce que vous avez souvent l'impression, Mathieu Ducamp, de voir débarquer, alors là c'est un cas, il fallait les prendre en charge, mais de voir débarquer à l'hôpital, aux urgences, des gens qui n'ont rien à y faire?
Ben, j'avais lu, quand je préparais mon mémoire d'urgentiste, justement j'avais vu une étude qui disait qu'il y a 90%, alors a posteriori, hein, c'est toujours facile, mais 90 ou 95% des urgences, en fait, qui ne nécessitaient pas de venir aux urgences. C'est énormissime. Et encore, l'étude, elle n'est pas récente.
Ouais, alors, il y a un exemple, il y en a plusieurs, hein, mais dans votre livre, par exemple, une mère qui déboule avec son enfant qui a fait une petite crise de nerfs. Pour quelle raison?
Alors ça, je l'ai raconté parce que c'est un petit hommage au jeu de PlayStation auquel j'ai plus le droit depuis que j'ai des enfants. Mais
petit message personnel à destination de ma femme.
On n'a plus la télé, on n'a plus. Enfin, c'est... Bon. Ça fait trop de trucs à acheter. Madame, il me l'amène en me disant, je sais pas comment il s'appelait, parce que les prénoms, c'est pas vraiment les vrais quand même. Mais,
oui.
Vous avez changé dans votre livre.
Non, mais surtout, je m'en rappelle plus.
Vous êtes dit son prénom.
À un moment donné, c'est. Donc il vient en disant ouais, mon fils a fait une crise, donc nous on l'installe, on dit ah, qu'est-ce qu'il a fait, une crise convulsive. Généralement c'est ça, donc voilà. Et en fait non, il a fait une crise parce que sa mère l'a empêché de jouer à la PlayStation, quoi.
Donc le gamin va bien. Il vient aux urgences pour ça.
Ah ouais, donc je vois un petit bouboule là qui comme ça qui me regarde, à qui j'ai dû faire voilà une leçon à la super nanny ou à Pascal le grand frère. Enfin, j'ai que ça à foutre à 4h du matin.
Vous êtes médecin quoi, médecin urgentiste.
Ouais, bah, c'est ouais. Bien. Après voilà donc. Bon bref, déjà que ça me fait chier quand j'engueule mes enfants, mais en plus c'est pour engueuler les enfants des autres.
Vous n'êtes pas payé pour ça, on n'est pas fait tant d'études pour ça. Mathieu Doucan, allez, dans un instant, quelques gaffes et bonnes blagues.
Vous écoutez RTL.
On vous dit tout sur le métier de médecin urgentiste avec le docteur Mathieu Doucan qui exerce depuis 5 ans à Tourcoing. Vous publiez « Papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital ?» Chronique d'un jeune urgentiste aux éditions de L'Opportun. Ça fourmille ce livre d'anecdotes, parfois tragiques, parfois légères, parfois drôles. Celle-là est plutôt marrante quand même. Ce patient qui arrive, et alors il parle pas. Il fait quoi, des bruits d'animaux, c'est ça ?
Il parle un petit peu. En fait, il est ce qu'on appelait avant, parce que ça se fait plus trop d'appeler les patients, les gens comme ça, mais il est débile léger. Mais en fait, c'est un espèce de running gag, ce mec, parce qu'il vient 3-4 fois par an, ou même plus. Moi, je le vois 3-4 fois par an, donc il doit venir plus.
Et avec un bruit d'animal différent à chaque fois,
non,
c'est ça ?
Non, en fait, si vous passez devant sa chambre et que vous dites un nom d'animal, il va le faire. Donc en fait... Rapidement, ça a été en fait tout le service et passe en passant voilà d'une pièce à l'autre. Et jusqu'à ce qu'on. J'ai réussi à le sécher avec le hamster, ça il a.
Il a pas trouvé.
Non. Après, il a pas vraiment d'update parce que je l'ai vu encore il y a pas très longtemps. Je lui ai redemandé le hamster et
il l'avait toujours pas trouvé.
Ah, il s'était même pas mis à jour. Mais c'est une pathologie ça, Mathieu Doucan, ou c'est juste une blague qui vous fait ce patient ?
Ah non, je pense qu'il est juste débile. Enfin, il est.
Il est fou.
Non, il est.
Mais il vient pourquoi en fait ?
Il vient, je crois qu'il a une vraie maladie quelque part. Je crois qu'il fait des crises d'épilepsie ou un truc comme ça. Mais pas tout le temps. Donc voilà, des fois il le dépose, personne ne sait pourquoi. Et il est hyper gentil en plus ce monsieur. Mais.
Alors on sait que c'est évidemment un métier très sérieux.
Je crois qu'on a perdu Gérald Chaland,
notre producteur
avec cette vanne. Vous nous suivez sur RTL.fr, vous pouvez le voir. Il est plus rouge que le studio.
Oui, c'est vrai. Mais médecin gentil, c'est évidemment un métier très sérieux. Vous sauvez des vies, vous prenez soin de nous et ça, on vous en remercie chaque jour. Mais c'est vrai que c'est un lieu aussi difficile avec beaucoup de stress. Et le fou rire, j'imagine, et les scènes que vous décrivez, c'est indispensable pour décompresser.
Oui, après, si mes collègues écoutent, ils sauront que quand je suis arrivé assistant, j'étais beaucoup plus jeté que maintenant.
Vous êtes calmé, c'est ça ?
Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu quand on donne le doctorat, t'as un peu la licence tout kill, quoi. Donc t'es un peu comme un dingue.
Ça veut dire quoi là, attendez, vous avez dit des mots très très vite.
le permis de tuer, là, ouais. C'est le truc de James Bond.
Donc on se sent.
Non, on donne une responsabilité. En fait, ça donne énormément de stress. Et l'effet secondaire, c'est que quand il y a moyen de déconner, ça part plutôt fort. Mais ça diminue assez rapidement. Et en fait, les fous rires, ils ont lieu surtout entre nous.
Ouais.
Plutôt qu'aux dépens des patients, parce que...
Et vous ne vous moquez pas des patients ? Parfois.
Sauf quand ils font des bruits d'animaux, quand même.
Non, parce que lui, c'était vraiment fait avec gentillesse, mais on se moque des gens qui vraiment se foutent de notre gueule.
Ah oui, ça peut arriver.
Volontairement. Après, c'est... Enfin, le truc, c'est qu'on est... ça fait... Nous, surtout dans notre service, on est vraiment une famille. Enfin, moi, je le ressens comme ça, qu'on est vraiment une famille. Et justement, le lien qu'on a entre nous, c'est ça. C'est l'humour et... Et puis voilà, l'humour d'urgentiste, je pense que si on mettait un micro dans notre salle de repos...
On serait effaré, non ?
Ouais, mais pas sur le côté genre amoral sur les patients, mais juste amoral entre nous, parce que ça va... C'est hyper trash, quoi.
Alors tiens, un exemple d'une vanne. Un confrère qui s'apprête à effectuer, excusez-nous, 21h34, allons-y, un toucher rectal à une patiente. Non, c'est pas un gros mot, mais bon, je prends des précautions. Remarquez, vu le thème précédent, on a parlé de sexe pendant 40 minutes, on peut enchaîner. Donc, il s'apprête, votre confrère, à faire un toucher rectal à une patiente et vous choisissez de diffuser dans tout le service, hein, imaginons. Sauf que
on va prendre
André Facetta fait des grands gestes parce que je sais pas, il était en train de lire le journal
on
et donc
dans nos CD.
Et donc il recherche, oh c'est une
il
vanne
nous, écoutait.
Nous aussi entre nous on peut se faire des blagues,
je veux dire, en préambule en fait
on a le 45 tours en plus, arrêtez.
dans notre service on a un système pour communiquer entre nous qui a un interphone, donc c'est un peu old school mais ça marche super bien.
Voilà, et donc il diffuse ceci. Donc Carles Whisper, George Michael, le tout pendant un toucher rectal.
Il faut nous expliquer la blague, on n'est pas sûr d'avoir bien compris.
C'était un de mes collègues qui est parti malheureusement, que j'évoque d'ailleurs dans le livre, qui est pour moi l'urgentiste absolu, parce qu'il avait compris énormément de trucs assez drôles et puis surtout il avait un recul par rapport à notre boulot qui était vachement bien. Du coup il s'est barré, je pense qu'à un moment donné, dès qu'on a l'épiphanie, on se barre. En gros, ouais, c'est ça. Il se retourne vers moi et il met la vaseline sur le bazar, là, sur son doigtier. Et il me dit, ouais, je vais faire un toucher rectal, fais chier, machin. Ça fait, à part ce que j'explique dans le bouquin, à part avec un peu de musique, un peu d'alcool, ça fait plaisir à personne de se prendre dans le cul et ça fait plaisir à personne d'en mettre un, quoi. Donc, et donc en gros, il rentre dans. Ouais, ça peut se discuter, mais là en l'occurrence. Donc, du coup, il rentre dans la salle et je tape le code et je lui passe ça sur ce qu'on a. On a quand même internet et.
Quand même.
Ouais. C'est le Nord, on a quand même un tarif. Et du coup, il y a ça qui passe. Donc moi, j'imagine le gars dans le cul de la nana avec la musique qui passe. Donc il est sorti, il était. C'est un mec pour lui arracher un sourire. Fallait y aller parce qu'il était hyper pro quand même. Et enfin, devant les patients. Donc ça, c'était pas mal. Et du coup, j'étais de garde avec un autre collègue qui est parti voir un mec qui venait de se suicider. Enfin, qui venait de se suicider avec une tentative de suicide à deux balles. Et donc, on lui a. Il repart, donc j'étais mordu à un machin, et il rentre dans la salle. Donc je le mets avec le temps de Léo Ferré. Donc le mec lui a parlé pendant un quart d'heure en lui disant, vous vous rendez compte, oui, je comprends, votre femme, tout ça, machin, c'est hyper triste, avec Léo Ferré sur la radio. Donc, pareil, il sort, il était.
En larmes. Voilà.
Ça, c'était vraiment le début de ma carrière. Après, bon.
Vous vous êtes un peu calmé, c'est ça?
Non, mais mon chef de service m'a dit à un moment donné, il faut que tu arrêtes parce que si. C'est. Non.
Papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital? Chronique d'un jeune urgentiste, c'est le livre que vous publiez aux éditions de L'Opportun, Mathieu Doucan. C'est vos enfants ou votre enfant qui vous a dit ça un jour?
Ouais, j'ai deux enfants. J'en ai un qui, pour l'instant, qui ressemble plus à. Enfin, qui parle plus comme un alcoolique, donc c'est pas lui qui a dit ça, mais le.
Quel âge il a?
Il a deux ans,
d'accord.
Je comprends, ouais.
Non, parce que pour ceux qui débarquent, là, d'un seul coup, qui entendent ça, qui n'ont pas saisi votre humour, là, parce que nous, on est bien imprégnés de votre humour, là, maintenant, depuis une demi-heure, mais pour ceux qui débarquent, ils se disent, mais qui c'est ce Gus, là? Qu'est-ce qu'il dit de son fils?
Mais vous avez des enfants.
Mais oui, bien sûr, à deux ans, c'est vrai qu'il parle.
On se fout un peu d'eux de temps en temps, c'est sûr.
Non, mais gentiment. Je passe énormément de temps à comprendre déjà. Donc après, c'est très limité. Ça parle les voitures, les pompiers, les voitures.
Enfin, il y a quand même un de vos enfants qui vous a dit, papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital? Ouais, on aimerait savoir pourquoi.
C'est mon premier. Alors lui qui est plus grand, Axel, qui doit dormir, j'espère, et qui m'a dit ça une fois en fait. C'est-à-dire que je pars en garde. Ça va être un samedi matin, je pense. Et ouais, il me dit ça. Et en fait, c'est vrai que quand je suis allé au boulot, je me suis aperçu que je savais pas répondre à la question.
Donc, parce que vous passez un temps fou, c'est ça?
C'est pas un temps fou. Je pense que maintenant, je fais un peu moins de garde, mais on fait un petit peu moins de garde, mais on fait plus de nuit en fait, parce qu'on a un poste décalé jusqu'à 11h la semaine. Et puis surtout parce que pour un gamin, ça paraît une éternité et que c'est impossible de lui expliquer la notion de temps et que voilà.
Mais quand vous dites, j'ai pas finalement trouvé la réponse. Parce que vous vous demandez à quoi vous servez dans cet hôpital, quand même, non?
Je me victimise un urgentiste, peu, mais
ça nous semble essentiel.
Oui, il y a un peu de ça. Après, quand vous passez une nuit, en fait, le lendemain, quand vous revenez et que la nuit, vous avez fait des cloques, on vous a fait sortir pour des arrêts cardiaques qui sont des trucs bidons. Alors, c'est pas du tout une charge contre les régulateurs. Hein, parce que moi, j'en fais pas. C'est hyper dur comme boulot et j'ai un grand respect pour eux. C'est juste que les gens au téléphone, c'est très compliqué des fois de faire le. Donc voilà, vous faites ça.
Point sur leurs mots, ouais.
Voilà,
ouais.
Vous passez une nuit et puis à la fin de la nuit, en n'ayant pas dormi, donc vous avez les hormones dans les chaussettes, vous vous dites putain, pourquoi je fais ça, quoi.
Ouais. Mais ça vous arrive aussi de sauver et puis aussi de donner la vie, tiens. Accoucher une femme le temps d'une cigarette, c'est ce qu'on va vous raconter. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France. Est un vilain défaut.
C'est désagréable parce que je vais passer avec une caméra au fond de la gorge.
Oh là 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 là.
Ben si, monsieur.
RTL.
Vous ne quittez pas, je vous mets en relation avec un médecin, vous ne raccrochez pas.
Madame, le médecin est sur Saint-Quentin, elle essaye de vous joindre.
Jusqu'à 22h.
Cette sonnerie, c'est forcément un bip d'extrême urgence.
La curiosité est un vilain défaut.
Et puis on dérange pas le professeur Carpentier pour rien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
5 minutes pour y arriver, d'accord?
24 heures aux urgences.
C'est le thème de notre curiosité avec le médecin urgentiste Mathieu Doucan qui exerce à Tourcoing. Vous publiez « Papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital ?» C'est aux éditions de L'Opportun. Alors évidemment, souvent... les urgentistes qui fument vont prendre une pause, ils s'adossent contre le mur de l'hôpital ou des urgences, ils pensent pouvoir fumer tranquillement leur cigarette et tout d'un coup, qu'est-ce qui vous arrive ?
Déjà, je fume la cigarette électronique, moi je tiens à le dire, parce que pour ma mère. En fait, bah, ça c'est pareil, c'était une histoire un peu... Le matin, on fait... J'étais de ce mur et le matin, on fait les transmissions. Enfin, c'est pas vraiment les transmissions, mais en gros, il y a la relève... à 8h30. Mmh. Et puis je fume une clope en parlant avec mon collègue du matin. Et donc là, on voit passer une femme dans le sas des ambulances en gueulant. Et puis je vois au loin qu'il la mène pas à droite vers la gynéco, mais à gauche vers chez nous. Donc ça arrive de temps en temps qu'on fasse des trucs gynéco, mais c'est assez rare parce que c'est pas la même localisation. Donc en fait, j'ai venu d'allumer ma clope, je la pose sur le recoin là où on avait nos pompes. Et donc on va jouer au déchocage. Je mets des gants, là, écarte les jambes, bam, il y a un gamin qui sort, bam, je coupe le cordon. Bon bah bam, je la remets dans le main de la dame, félicitations, et je repars. Et en fait, quand je suis arrivé, la clope était pas finie. Genre il y avait encore mon collègue qui était là, donc on a pris la clope, machin. Et en fait, c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais c'est ouf, c'est ouf. Quoi.
Oui, là quand même, vous vous êtes dit, c'est dingue.
Faut une sacrée maîtrise de soi, non ?
Bah, il y a des
quoi de médecin urgentiste, infirmière.
Oui, là il suffisait juste de s'en remettre des gants, hein, parce que franchement, elle a accouché, comme vous disiez tout à l'heure, je donne la vie, moi je donne rien du tout, hein, j'évite que le gamin il crève, mais après c'est la mère qui donne mère qui donne la vie.
Oui. Il y a parce que là vous donnez l'impression d'être blasé en fait.
Non.
Je me mets à la place d'un auditeur qui vous a pas en face. Nous on vous voit et on sait que vous l'êtes pas. Et en vous entendant, il pourrait se dire ça. Vous l'êtes pas, blasé ?
Non, les neurologues ils disent frontal.
Ça veut dire quoi ?
Vous avez été analysé, c'est ça ? Oui,
non,
ça m'étonne pas.
Il n'y a pas de filtre. Ouais. Certains patients. Ouais. Non, mais c'est parce que je parle comme ça, mais voilà, parce que je parle comme ça tout le temps. Mais non, je suis pas blasé. Si j'étais blasé, j'aurais arrêté.
Ouais. Est-ce qu'il y a souvent, j'imagine que oui, hein, de l'adrénaline, c'est-à-dire des comme ça, parce que là, vous nous décrivez un accouchement le temps d'une pause cigarette, comme si de rien n'était. J'imagine qu'il y a des moments où il y a plus de tension, de stress, où j'en sais rien, on perd un patient.
L'adrénaline, c'est pas sur les gestes. Alors, vraiment, encore une fois, je parle pour moi. C'est pas du tout un manuel de ce que c'est qu'un urgentiste. J'ai pas du tout la prétention. Il y a 10 000 façons de faire le boulot. Et que je respecte. Je fais une petite intro pour voilà. L'adrénaline, moi je l'ai pas sur les trucs très aigus. C'est-à-dire que voilà, les accouchements où vraiment le bébé sort, machin, où il, voilà, et je raconte l'histoire d'un gamin qui a le cordon autour du cou, c'est déjà ce qu'on nous a appris, je le fais. Un arrêt cardiaque, on arrive, c'est hyper systématisé, c'est assez facile. Un arrêt cardiaque, c'est hyper protocolisé. Enfin, facile, pas facile, mais c'est bien protocolisé. Oui. L'adrénaline, elle l'est quand ta patience dégrade. Et par exemple, on prend un patient qui va pas trop mal et qui se dégrade. Ou dans la journée, on a un patient qu'on suit et il se dégrade. Ou c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Là, c'est là vraiment, pour moi, hein, c'est vraiment les situations les plus difficiles à gérer parce que le stress monte tout doucement et il faut rester cohérent pour que la personne ne meure pas.
Mathieu Doucan, il y a d'autres moments durs, évidemment, que vous racontez dans votre livre. Par exemple, cette fois où vous devez annoncer à des parents que leur fille est morte dans la salle d'attente des urgences. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors c'était pas dans le bouquin, c'est l'histoire que j'avais racontée à la première journaliste qui m'a posé la question. Alors c'était pas aux urgences, elle m'avait demandé. Alors déjà l'interview, c'était hyper bien. Je vais même pas remercier. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier. Mais la première interview, je l'ai fait en post-garde, donc je sais plus trop ce que j'ai dit. Mais cette histoire-là m'avait demandé ce qui m'avait marqué le plus dans ma carrière. Ouais. Et ce qui m'a marqué le plus dans ma carrière, c'était mon premier stage d'interne. En fait, comme un débile, j'ai pris le stage le plus dur du Nord. Mais moi, je savais pas. Donc, on a un carnet avec des notes. J'ai pris celui-là et tout le monde m'a regardé. Mais t'es complètement con.
Pourquoi c'était un stage où ?
C'était dans une réanimation particulière de Lille et qui était super dure, super trash. Donc je me retrouve, moi, je viens, voilà, t'arrives de vacances, c'est la fête. Bon, t'es à Lille, donc c'est moins la fête, mais donc ce stage hyper dur. Et en fait, au bout de quelques mois, on reçoit une jeune patiente qui avait à peu près notre âge et qui était consciente et qui s'est dégradée et qui est morte en quelques jours. D'un palu en plus, donc c'est vraiment un truc à la con. Et enfin, à la con, parce que dans l'histoire, c'est un truc à la con. Mmh. Et je me suis retrouvé à devoir annoncer à sa mère et en fait à toute la famille la disparition de cette nana avec la mère qui avait l'âge de ma mère. Pour quelqu'un qui est mort, qui avait mon âge, face à des gens qui auraient pu être mes frères, mes soeurs, enfin mon frère et ma soeur. Quoi.
On l'apprend en école de médecine, ça ce moment où il faut annoncer la mort d'un patient.
Ce qu'on t'apprend, c'est. Alors déjà, dans la formation, généralement, quand il y en a une annonce de mort, on dégage l'externe. Donc le mec qui apprend. C'est un peu con. Ouais. Ensuite, dans les bouquins, on te dit. Alors tu vois, il y a l'annonce de la mort, l'annonce du mauvais diagnostic. Quand c'est l'annonce du mauvais diagnostic, on dit il faut absolument que tu arrives. C'est génial, à faire dire au patient ce qu'il a. Donc le mec, déjà, il n'a pas 10 ans de médecine, il n'a pas réussi à... Donc soit tu te balades avec une chope avec marqué cancer, en gros, en... Voilà, tu vois, devant lui, j'avais ça gamin, des chopes avec les signes d'horoscope pour qu'il devine. Donc il faut arriver à faire dire au patient ce qu'il a. Donc c'est quand même... voilà.
Oui.
Donc en gros, on a 3-4 phrases écrites par un mec qui a voulu synthétiser le truc, mais c'est impossible, ça ne s'apprend pas. Ça.
C'est
donc,
l'expérience.
Et puis tu n'as même pas de bonne façon. Moi, j'ai vu faire des professeurs hein, qui ont de l'expérience. Là, tu te dis, ouais, balèze le gars. Et puis, j'ai vu d'autres gars plus expérimentés, moi, qui n'arrivaient pas. C'est compliqué.
Puis, parfois, aux urgences, il vous arrive de faire des gaffes. On va les raconter dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Garde de nuit avec le médecin urgentiste Mathieu Doucan qui publie « Papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital ?» aux éditions de L'Opportun. Est-ce qu'il y a des... Comment je peux dire ça des populations récurrentes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les patients du lundi, ceux du week-end, etc.
Ouais, il y a. Alors encore une fois, je vais faire une intro en fait à chaque réponse.
C'est
là,
très
je parle
bien.
Vraiment de mon service, oui. De ma population, de mon bazar. C'est vrai que le lundi, très souvent, on a les patients qui débordent de la consulte du médecin traitant. Parce que le médecin traitant est en week-end, et après ils sont pas tous en week-end, mais voilà, donc par effet statistique, on se les récupère. Après, à 6h30, il y a tous les parents qui ont récupéré leur mioche à l'école et qui sont tous qu'à bosser, ils nous la ramènent. Le mercredi, on a effectivement un peu moins de monde, parce que les gens font des trucs, mais on a quand même quelques gamins qui viennent. Le vendredi, on a le patient, alors ça, j'en ai parlé sur plusieurs histoires, mais le vendredi, c'est un petit peu là où on dépose les vieilles qui vont pas bien depuis des mois. Elles arrivent le vendredi soir. Forcément, alors vendredi soir, pourquoi ? Parce qu'elles ont été vues par un médecin qui a conseillé d'aller à l'hôpital, pas aux urgences. Puis la famille, l'amène aux urgences comme ça, si on peut la garder pour le week-end, surtout s'il fait beau, ça arrive rarement dans le Nord, je peux comprendre. Et donc c'est à nous de se démerder pour trouver une place. Donc le vendredi, c'est un peu chiant, surtout qu'ils viennent à 6h30, le moment où il y a plus personne, enfin il y a plus de médecins dans les services. Et puis après,
les sportifs du week-end.
Les sportifs du week-end qui n'ont toujours pas compris qu'une radio, par moment, ça peut attendre le lundi, c'est pas la fin du monde. Mais le dimanche, pour le coup, le dimanche, c'est difficile de leur en vouloir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on récupère de traumatologie qui sont complètement justifiées. Et puis voilà, plus samedi, c'est un peu la.
Et puis ça recommence. Lundi, mardi, mercredi.
Ouais.
Alors on imagine que avec le stress évidemment de votre métier, l'adrénaline, la vitesse, la gaffe est assez facile. Alors une fois vous vous êtes appelé pour un meurtre, il y a un homme qui a tué sa femme et puis il s'est pendu. Et quand vous arrivez sur les lieux, vous demandez à un homme que vous croisez, mais il est où le corps ? Et on vous répond pas.
Mais en fait, j'arrive sur la scène et on me dit ouais, c'est une histoire terrible. En plus, ça m'emmerde de le raconter là maintenant parce que je sais que j'ai des gens à côté de moi qui étaient proches de ces gens-là, mais l'histoire elle est horrible. C'est-à-dire que le gars borde sa femme, attend qu'elle dorme, il la tue, puis il se pend à côté. C'est un couple de personnes plutôt âgées pour une histoire en plus d'embrouille de voisinage. Donc vraiment, truc très dramatique. Et quand je croise les flics, machin, je dis c'est où le truc ? Puis je passe comme ça entre les flics, je dis bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, c'était le jour, bonjour, bonjour. Et puis le dernier gars qui dit bonjour. Donc je vois les jambes, en fait, tu marches sur l'escalier, je vois les jambes, je dis bonjour, et puis en fait, je lève la tête et c'était le pendu, quoi. Donc là, les flics m'ont regardé, ils étaient complètement cons, lui. Donc voilà. Mais bon, après, pour le coup, moi, je leur en voulais parce que j'ai rien demandé. Être médecin, c'est cool, mais me déplacer pour faire des certificats de décès, c'est un peu toujours pour notre pomme, et ça, c'est chiant parce que voir des cadavres, par contre, surtout en situation comme ça, c'est.
Vous leur en voulez de mourir ?
non,
de donner la mort.
J'en veux au système qui fait que on déplace un SMUR qui ça coûte une blinde en plus. On déplace un SMUR qui pourrait être ailleurs pour sauver quelqu'un qu'on a vraiment besoin, pour faire un constat de décès. Donc j'en ai strictement rien à foutre, quoi. En tant qu'urgentiste, hein, pas en tant que médecin, pas en tant qu'être humain.
Mais
qui d'autre pourrait le faire alors?
Eh ben, il y a alors les médecins légistes, non, parce qu'ils sont encore moins que nous, mais voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'on arrive à un système où trouver un
médecin. Tout retombe sur vous, en fait. Tout retombe sur vous. C'est ce qu'on comprend. Alors, on va terminer. Allez, il nous reste 3 minutes sur des notes un peu plus légères et des gaffes un peu plus légères que celle-là.
Cet enfant-là, qui joue avec des petits jouets.
J'aime bien celle-là, ouais.
Et vous dites à la maman ou à l'enfant, vous dites, mais arrête de jouer.
Faut être dans le contexte. On a une association qui nous donne des jouets.
Oui.
Alors des fois des jouets super bien machin, et puis des fois des trucs mais tout pourri, quand on a des trucs Mexico 86, enfin des tu peux pas filer ça à un gamin, on a des moitiés de stylo, enfin bref, c'est ridicule. Mais bon, c'est sympa, le geste est sympa. Donc en gros, et puis donc on a l'habitude de ces jouets pourris, puis quand j'ouvre la porte, je vois le gamin, il joue avec des bagnoles mais vraiment pourri, quoi. Donc je lui dis, t'as eu des voitures pourries de l'hôpital. Donc la mère me dit, bah non, c'est moi qui l'ai offert.
Ambiance. Moi, je trouve la plus belle pour moi, Mathieu Ducamp, je connais pas toutes vos gaffes, hein, c'est cette question que vous posez à un enfant qui n'a plus l'âge d'être en poussette. Qu'est-ce que vous lui demandez?
C'est pareil, là, je m'attends, en fait, j'ouvre la porte pour une petite. Je vois, on a les âges, hein, donc je vois que c'est une gamine de 2-3 ans, et en fait, j'ouvre comme ça, et je vois une poussette avec une gamine de 10 ans dedans, et qui me regarde, et je lui dis, bah alors, on fait la feignasse, on prend la poussette de sa sœur et tout. Et en fait, sa mère me dit, elle est handicapée, en fait. Donc voilà, et donc là je passe un quart d'heure à dire putain je suis trop con. Alors du coup je l'ai dit comme ça, et je me suis aussi excusé comme ça. J'ai dit écoutez, je suis trop con en fait, je suis trop con. Et du coup ça a fait sourire la maman, et j'ai pu repartir dans la consulte. Un peu comme avec les bagnoles, j'ai eu plus de mal avec les bagnoles quand même.
Pour rattraper la gaffe, oui.
Ouais.
J'ai une petite question de fan de série Urgence, Grey's Anatomy. Dans les urgences telles que vous les vivez, est-ce qu'on retrouve ce côté un petit peu Santa Barbara avec les amours qui se font et qui se défont? Est-ce qu'il se passe des trucs entre vous?
Pas chez nous. Comment?
Ah bon?
Non, c'est comment c'était?
Passer trop de temps à rire.
Non, pas de ça chez nous. Ouais.
Pas de ça chez nous.
Vous. Ouais. Allez, très bien.
C'est marrant, c'est la réponse la plus courte que vous ayez faite, celle-là.
Non, ça tarde pas. Hein. Ah, papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital? Chronique d'un jeune urgentiste. Mathieu Ducamp, vous publiez ce livre et vos récits aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir.
Merci
au micro
beaucoup.
De la curiosité.
Et on rappelle qu'on aime beaucoup le Nord sur RTL.
Évidemment,
et
on a beaucoup d'auditeurs
curiosité.
Qui nous écoutent.
Évidemment,
dans le Nord.
Et vous aussi, c'était de l'humour.
Allez. Vous écoutez RTL.